Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, Jabodima.
Qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être
Ce soir, on va continuer notre étude et on va parler de Dieu. Alors, c'est assez évident quand on est dans l'église, n'est-ce pas? Mais souvent, quand on parle de Dieu, on se répète beaucoup. Et on n'approfondit pas du tout le sujet. Écoute, si vous voulez approfondir le sujet de Dieu, vous pouvez l'approfondir autant que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup à savoir, n'est-ce pas? Même j'ai l'idée que sur cette terre, nous ne le saurons jamais. Des fois, on commence de parler des choses, et ce soir, on va parler, par exemple, de comment Dieu, il est immuable, omniscient, omniprésent. Alors, j'ai le sentiment que souvent, quand nous les chrétiens, que nous entendons un mot qui a plus d'un ou deux syllabes, tout d'un coup, pouf, nous sommes dans les vapes, et on dit, Amen, et on n'a aucune idée de ce qu'il dit le pasteur, et en plus, on fait pas des efforts intellectuels pour vraiment plonger dedans, n'est-ce pas? Parce que pour nous, les pentecôtistes, les évangéliques, souvent, nous sommes allergiques à ce mot intellectuel, le cerveau. Et pourquoi? Parce que dans les années 1800, là, les théologiens allemands ont développé la haute critique et qui a tellement critiqué la parole de Dieu, qui a enlevé toute la puissance que nous, les évangéliques, en retour, on a eu une réaction. On a dit, non, nous ne voulons pas l'intellect. Eux, ils avaient une fausse intellect. Mais je crois qu'il n'y a rien de mal si on comprend Dieu. Enfin, plus je le comprends, plus je crois en lui, et plus je crois en lui, plus ma vie sera riche. Amen. Alors ce soir, on va approfondir, j'espère, notre connaissance de Dieu de nouveau. La semaine passée, on a parlé de la Trinité, et certains de vous, vous aviez les yeux croisés en essayant de le comprendre, n'est-ce pas? Mais maintenant, au moins, vous savez plus que vous avez su la semaine passée. Et cet après-midi, je suis là, je suis un peu en retard, mais je suis là. On va parler des attributs de Dieu qui, lui, sont propres. C'est-à-dire, il est Dieu, il est une personne, un esprit, il est esprit, mais il a une personnalité. Et certaines choses, il a en commun avec nous. Mais il y a certaines choses en Dieu que on n'a aucun rapport avec ces choses. Et tu dis, mais David, pourquoi on a un peu parlé de ça? Pourquoi? Tu parles des choses, la Trinité, les choses, l'immuabilité de Dieu. Tu essaies d'expliquer quelque chose que tu ne peux même pas prononcer. Pourquoi? Parce que je crois, comme tu dis, il est bénéfique pour nous, il est édifiant. On dit, mais disons de la Trinité, je comprends pas ces choses que je comprends pas. Mais moi, je dis, pourquoi pas essayer? Moi, je suis content que j'ai un Dieu qui est grand. Je suis content que j'ai un Dieu qui est, si tu veux, complexe. Un Dieu qui est tellement petit que je peux tout à fait le comprendre avec ma petite cacahuète de cerveau. Et il est bien trop petit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Certains d'entre vous sont toujours réveillés. Mais là, je veux voir comment il est. Et bien sûr, je vais pas tout comprendre. Mais il est bien étudié. Des fois, je me sens un peu comme un fourmi qui enseigne sur les dinosaures. J'enseigne les petits dinosaures, les frères et les sœurs fourmis. Voilà comment il est, le dinosaure. Alors c'est utile pour les fourmis de savoir comment sont les dinosaures, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va tout comprendre, les dinosaures? Non. Mais il peut dire, elle peut dire, la maman fourmi, elle peut dire à son petit-fils, là, écoute, attention, les dinosaures, ils ont des grandes pattes. Alors, s'ils mettent cette grande patte sur vous, vous allez tout de suite à la fourmilière céleste. Alors, évitez les pattes de dinosaures. Est-ce qu'il comprend tout ce qu'il y a de dinosaures? Non, mais il comprend assez, n'est-ce pas? Et je crois qu'en parlant de Dieu, le Seigneur nous donne une révélation de la personne de Dieu. Et plus nous comprenons, comme je dis, plus notre vie terrestre sera riche, plus nous allons comprendre la vie éternelle, parce que notre Dieu, il est grand et il est précieux. Ce soir, d'abord, on va dire que Dieu, il est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, immuable? Il change parfois. Oh là là, vous êtes des bons élèves. Alors, c'est fini, c'est tout le message. Il n'y a rien qui... Presque. Il ne change pas. Les synonymes pour immuable sont éternel, qui n'est pas exactement là, impérissable, beaucoup plus proche, inaltérable, indestructible, et on parle aussi de l'immuabilité de Dieu. Son constance, continuité, durabilité, invariabilité, permanence, solidité. Les théologiens disent Dieu est parfait. Il ne changera jamais dans son essence, dans ses attributs, dans sa conscience, sa volonté, ses promesses. Certaines de vous, les femmes, vous dites, mais Dieu, il est comme mon mari, il change jamais, hein, parce que je lui avais demandé 10 000 fois de sortir les ordures, il ne le fait jamais. Je lui ai demandé, non, mais c'est pas comme ça. Dieu, il est parfait. Amen. Et il ne changera pas, heureusement. Heureusement. En Dieu, le changement n'est pas possible. Parce que si tu changes, tu dois changer soit pour le meilleur, ou soit pour le pire. Alors, Dieu, il est parfait. Est-ce qu'il peut s'améliorer? De tout. Parce qu'il est tout à fait juste. Il est tout à fait amour. Alors, on dit, Dieu aime. Dieu vous aime. C'est vrai, Dieu aime. Mais plus que cela, Dieu est amour. Dieu est juste. Mais en plus, Dieu est justice. Ça fait partie de ce qu'il est. Il est juste et il ne peut pas être autrement. Il est amour et il ne peut pas être autrement. Alors vous voyez bien que des fois, il semble que Dieu, en lui, il y a des conflits assez importants. Avant de venir en Europe, je ne savais pas exactement comment c'était entre les Anglais et les Irlandais. Mais en traçant un peu l'arbre familial, on a trouvé là dans nos ancêtres des Irlandais et des Anglais, même les Français, quelques-uns. Et je me suis dit, maintenant, je sais pourquoi j'ai tant de conflits intérieurs, parce que si tu as un Anglais et un Irlandais et un Anglais dans le même corps, dans la même personne, vous avez quand même un peu une bagarre là. Et je crois que des fois, en Dieu, je dirais, mais Dieu, il me semble qu'il y a des caractéristiques en toi. Par exemple, Dieu est juste. Alors, un Dieu qui est juste, un juste qui est juste, est-ce qu'il peut dire au criminel, va-t'en? Ça va, je te pardonne comme ça, sans que le criminel paye pour sa crime. Est-ce qu'il peut le faire? Un Dieu juste ne peut pas. Mais un Dieu qui est amour, que ce n'est pas sa volonté qu'une seule âme périsse. Comment peut-il envoyer facilement une personne en enfer? Alors, vous voyez, il semble être un conflit entre Dieu, son amour, et la justice de Dieu. Bien sûr, Dieu a résolu ce problème dans la croix de Jésus-Christ. En punissant, le juge a puni son fils innocent qui s'était chargé de tous nos péchés. Il a puni pour nous, pour qu'il puisse montrer son amour et sa miséricorde sur nous. Il y a beaucoup de choses qui sont résolues dans la croix, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont résolues dans la croix, n'est-ce pas? Amen. Dieu, il est immuable. Il restera éternellement parfait. Mais est-ce que vous voyez des implications de cela? Laisse-moi vous lire quelques versets. Le psaume, si vous prenez des notes, et vous aurez les notes de ce soir, le dimanche matin. Mais il a dit dans le psaume 102, le psaume 102, 27, « Mais toi, en parlant de Dieu, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Et puis, Jacques, il a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. En Malachie, il a dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Heureusement pour nous. Alors, quelles sont les implications? Est-ce que vous avez jamais vu une personne qui changeait tous les jours? Je vous ai peut-être parlé de mon prof de maths au lycée. Oh, je peux pas dire c'est à cause de cela, à cause d'elle, je suis tellement nul en maths, mais si je devais avoir une excuse, je la prendrais quand même. La Madame Stuart. Madame Stuart, vous aimez, vous venez un jour dans sa classe, c'était ouh, des fleurs partout, gentil. Oh là là, elle était bien. Alors tu viens le jour suivant, tout détendu, tout cool, et tu coupes la tête pour rien. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Vous, les étudiants, est-ce que vous avez jamais eu un prof comme ça? Laisse-moi avoir la main. Ouais, quelques-uns. Moi aussi, hein, Madame Stuart. Alors, on ne savait jamais comment elle sera. Alors, mes amis, si vous étudiez la parole de Dieu, vous saurez toujours comment Dieu sera. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours faire comme tu veux. Parce que c'est lui, Dieu, et pas moi, n'est-ce pas? Mais tu sauras comment il est. C'est pour cela que je mets tant, que tant de chrétiens, ils mettent la Bible là, l'armoire, et toute la semaine, ils ne regardent jamais. Et il y a tant de trésors, et on peut tant connaître notre Dieu. Il le laisse, hop, ça traîne, et il vient le dimanche comme le petit oiseau, avec la bouche ouverte, pasteur, donne-moi un verre de terre, quelque chose comme ça. C'est ta responsabilité de me nourrir. Est-ce que c'est vraiment la responsabilité des pasteurs? Bien sûr, ça fait partie. Mais je crois que la plupart de la croissance, ça vient aussi en dehors de l'Église, quand nous étudions la parole de Dieu nous-mêmes. Je vous encourage, Christian, il avait là la table de dimanche, un livre qui s'appelle « Comment étudier la Bible ?» Vous pouvez le commander de toute façon, et un autre aussi, qui sont pas chers, mais qui sont très, très utiles. Je vous encourage d'acheter ces livres et approfondir votre étude biblique. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas plus loin que vous étiez il y a 15 ans de cela, dans l'étude biblique, dans la parole de Dieu. Et il y a des méthodes, il y a des outils que vous pouvez utiliser pour approfondir votre connaissance de la parole. Et je vous encourage de tout mon cœur de le faire. Des fois, il m'arrive même, je ne comprends pas moi-même. Mais Dieu est compréhensible dans le sens que ce qu'il a fait est ce qu'il fera. Bien sûr, des fois, il agit d'une manière différente. C'est toujours un peu embêtant d'entendre un bon témoignage dans l'assemblée, n'est-ce pas? Quelqu'un se tient debout, écoute, j'ai quelque chose à partager. Et il partage quelque chose de merveilleux que Dieu a fait pour lui. Et toi, tu dis, wow, super, parce que moi, j'ai le même problème. Alors, tu cours, et tu pries, et tu dis, Seigneur, fais-le. Et le Seigneur ne le fait pas comme ça pour toi. Et tu dis, Seigneur, mais écoute, c'est ton petit chouchou, celui-là. Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Non. C'est que Dieu, il a une façon unique de faire la même chose pour toi. Le principe reste le même. Dieu secourt son peuple. Je me souviens, quand j'étais jeune pasteur là au Texas, on avait vraiment, vraiment besoin de notre bâtiment parce que on avait grandi l'église et il y avait plus de place dans le bâtiment un peu. Nous n'avions plus de salles pour l'école de dimanche et on avait des enfants partout. Alors, j'ai commencé de prier et j'ai entendu qu'il y avait un homme riche une fois qui avait toute une chaîne de restaurants de poulet et frites, qui était vraiment, vraiment apprécié dans le sud des États-Unis. Il s'appelait le Colonel Sanders, le Kentucky Fried Chicken, si vous l'avez déjà vu. C'est plein de graisse, mais c'est bon. Ah là là. Mais de toute façon, le Colonel Sanders, il était dans le Kentucky. Et puis, il y avait une église là qui avait des grosses difficultés financières. Je ne sais pas comment ou pourquoi, mais des grosses difficultés. Alors, ils ont commencé de prier dans cette église. Seigneur, donne-nous un millionnaire. Seigneur, donne-nous un millionnaire. Et vous savez quoi? Monsieur Sanders, le colonel Sanders, il est venu dans cette église. Il s'est converti, il a donné sa dîme et les problèmes financiers de cette église ont été solutionnés. Oh, oh, oh. Il y avait une petite lumière qui était allumée chez moi. Ah, c'est pas mal ça comme idée. Alors, moi, je voulais faire un peu différemment parce que je savais qu'il y avait, avant que je vienne comme pasteur, quelqu'un avait donné à l'église des actions en bourse, en le conseillant de garder ses actions parce qu'ils allaient monter en prix. Alors, l'église a gardé ses actions en bourse et ça descendait en prix. Très, très, très bas, jusqu'à ce que ça valait presque rien. Alors, moi, ça m'a taquiné ces actions. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, je vais prier. Et si le Seigneur il a fait ça avec Colonel Sanders et tout ce miracle, le Seigneur il peut faire monter le valeur de ses actions en bourse et nous allons devenir riches et on va acheter un nouveau bâtiment et on va le payer comme ça. Ah, c'est bien. Alors, j'ai commencé de prier. Au début, ça valait à peu près 2,5, je sais pas. Alors, j'ai prié et puis c'était 3. Et puis 3,5. Et puis 4. Et puis 3 3/4. Et puis 4. 4,5. 5. 6. Et moi-même, l'homme de foi. Allez, David! J'écrivais déjà le témoignage pour l'envoyer à la Pentecôte. 6. 6,5. 7. 7,5. 7 3/4. 7,5. 7. 7 1/4. 6,5. 6. 5. 4. 3. 2. 1,5. Colonel Sanders, où êtes-vous? Mais vous savez quoi? Si vous allez dans cette église aujourd'hui, vous allez voir un nouveau bâtiment. Tout est fait payer. Et vous savez comment nous avons fait? On a beaucoup travaillé. Nos chrétiens ont donné, ils ont fait des sacrifices. Et vous savez quoi? L'église, en tant que chrétien, on a grandi beaucoup, beaucoup plus en faisant des sacrifices nous-mêmes. On donne la dîme, en plus, les enfants missionnaires, en plus, les enfants pour le bâtiment, dans une petite église. Et quand on a construit l'église, oh là là, on a travaillé comme des fous. Ça nous a pris à peu près 2 ans, parce que la façon qu'on a fait, c'était un peu spécial, on a payé chaque étape. Mais à la fin, on ne devait pas un centime contre le bâtiment. On avait même de l'argent de la banque. Et l'église, vous auriez dû voir le foie. Alors si l'homme de Dieu avait prié jusqu'à ce que ça aille jusque 5 ans, et puis on avait vendu ça, acheté un bâtiment, tout le monde aurait dit, c'est bien cool, je suis pas impliqué. Ils n'auraient pas grandi non plus. Hein? Alors, pour cette église-là, ils avaient besoin d'un miracle, et tout de suite, Dieu leur a donné un millionnaire. Pour nous, Dieu savait de quoi nous avions besoin. Alors, est-ce que Dieu avait changé quand il a fait une façon avec nous, une autre façon? Non, pas du tout. Parce que le principe, la chose qui ne change pas en Dieu, c'est qu'il est fidèle. Et il répond dans notre foi. Amen. Il ne change pas. Mais ce verset-là, en Exode, chapitre 32 et verset 14, où Moïse était en train de chercher la face de Dieu parce que le peuple de Dieu avait été vraiment infidèle à Dieu. Et ils ont dit, non, on va servir ces veaux d'or. Ils ont offert des sacrifices, tout ça. Puis Dieu était vraiment, vraiment en colère. Il dit, Moïse, mets-toi à côté. Moi, je vais les détruire. Et là, je vais faire de toi un peuple. Et Moïse dit, non, non, c'est cool. Ne fais pas. Ne fais pas. Parce que tu sais, les Égyptiens, Moïse n'aimait pas les Égyptiens, parce qu'il lui avait fait tant de mal, et les Égyptiens vont l'entendre, et enfin, si vous voulez savoir, Moïse, ces gens, ils lui cassaient les pieds, mortellement, et il les aimait de tout son cœur. Seigneur, s'il te plaît. Et si tu les détruis, détruis-moi aussi. Si tu les effaces de ton livre, efface-moi aussi. Et la Bible dit, dans le second, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Le Semeur traduit, l'Éternel renonça à faire sur son peuple le mal dont il avait menacé. Quel Dieu, il avait changé d'avis? Est-ce qu'il avait changé? Le Seigneur s'est repenti? Non. Il avait agi selon un principe en lui, que l'intercession, ça marche. Moïse se mettait entre Dieu et le peuple de Dieu. Comme Jésus, sur la croix, se mettait entre Dieu le Père, la justice de Dieu, et le peuple qui péchait, nous. Et là, à la croix de Calvaire, Jésus a pris notre punition, comme Moïse devant Dieu a dit, Seigneur, si tu effaces le nom, efface le mien aussi. Tu vois, c'est le principe. Si Dieu trouve un intercesseur, il peut même m'épargner, il peut même pardonner. Comme Abraham là, qui faisait comme un bon juif, quand le Seigneur a dit, s'il y a 50 personnes, oui, j'épargnerai la ville de Sodome pour 50 personnes, et c'est de 40, et 3, 30, et il était vraiment un bon marchand, n'est-ce pas Abraham? Et puis jusqu'à 10! Pourquoi? Parce qu'il y avait un intercesseur entre la ville, ou bien entre le neveu, Lot, et Dieu, c'était Abraham. Et Dieu a établi certains principes dans la Bible. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes la seule chose qui reste entre un bien-aimé et l'éternité. Mettez-vous là comme intercesseur. Parce que Dieu désire avoir pitié de cette personne. Dieu désire les sauver. Et peut-être ce sont tes prières qui vont toucher le cœur de Dieu pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut vraiment faire. C'est avoir miséricorde. Sylvain m'a partagé un peu avant la réunion là, et quand nous prions un peu plus tard, on va prier pour la grand-mère de Sylvain, qui est gravement, gravement malade. Le médecin a dit qu'elle n'avait que quelques jours qui restent, et elle est moitié dans sa conscience. Et Sylvain veut que nous prions vraiment pour sa grand-mère, parce que bien sûr pour la guérison, mais plus que toute autre chose pour le salut de son âme. Et mes amis, je crois en tant qu'Église, nous pouvons nous mettre là devant Dieu. Et Dieu, selon ses principes qu'il a établis dans sa parole, il nous entendra, n'est-ce pas? C'est important, c'est la vie et la mort éternelle. On va prier pour elle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est bizarre, ce truc. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, Dieu, il est aussi omnipuissant. Qu'est-ce que ça veut dire omnipuissant? Ça, c'est omnipuissant. Quatre syllabes. Vous êtes toujours réveillés. Omnipuissant. Qu'est-ce que ça veut dire omnipuissant? Qu'est-ce que ça veut dire tout puissant? Oui, il est tout puissant. Il peut tout faire. Alors, si le premier principe... Et revenons juste un moment. Pourquoi êtes-vous content que Dieu est immuable? Quelqu'un me dit, deux, trois personnes, pourquoi êtes-vous content que Dieu est immuable? Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, s'il a fait ça pour David dans la Bible, il fera ça pour David ici, n'est-ce pas? Si David avait un besoin, Dieu répondait, David, il a aussi des besoins et Dieu répondrait aussi pour moi. Et quoi alors? Pourquoi est-il important que Dieu soit immuable? Pardon? Oui. Oh là là. Brigitte, tu as tellement raison. Parce qu'aujourd'hui, toutes nos éthiques, toutes nos mœurs sont, on dit, selon la situation. Normalement, c'est pas juste. Mais de temps en temps, c'est juste. Normalement, c'est pas bon. Mais tu sais, pour cette personne. Ou bien, la réalité est différente pour chaque personne. Pour une personne, ça c'est juste. Puis une autre personne, il fait. Alors la seule chose qui n'est pas permise, c'est de critiquer un autre. Excuse-moi, mais il dit. Denis Biave m'a envoyé quelque chose qu'il avait trouvé sur le top chrétien. Est-ce que vous savez, selon une étude, que presque 8% des Français ont essayé de se suicider une fois ou une autre dans la vie? Est-ce que vous savez que dans les... Je crois que dans les deux semaines avant qu'ils ont fait un certain sondage, il y avait, je ne me souviens même plus du pourcentage, mais un grand pourcentage des gens qui ont été sondés, qui avaient fait une dépression pendant les deux semaines avant ça. Et moi, je crois que je sais pourquoi. Si je suis dans un océan, c'est un surfboard, et il y a des requins qui tournent autour, et la seule chose là, qu'il y a un surfboard qui change, toujours, je suis bien mal fichu, n'est-ce pas? Et ça, c'est le monde sans la parole de Dieu. Mes amis, quand je mets les pieds solidement sur la parole de Dieu, sur Dieu qui est immuable, qui s'est révélé dans sa parole, c'est alors que j'ai une fondation solide dans un monde qui tourne, qui chancelle, dans les orages, s'abattent contre moi, contre ma famille, contre mes frères, mes sœurs. J'ai les pieds solidement plantés sur quelque chose qui ne bouge pas. Et ça, c'est sa parole. J'aime beaucoup ce chant. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Vous le connaissez? Je suis content. Il est omnipuissant. Dieu est tout puissant et capable de faire ce qu'il veut. Puisque sa volonté est façonnée par sa nature, il ne fera que ce qui est en accord avec sa nature. Heureusement. Amen. Imaginez Adolf Hitler, tout puissant. Imaginez Adolf Hitler, omniscient, il sait tout. Imagine Adolf Hitler qui est omniprésent partout. Si Satan avait gagné sa guerre contre Dieu, ça aurait eu Satan sur le trône. Imaginez comment il aurait été, elle aurait été l'univers avec l'ennemi de notre âme. Quelqu'un qui est tout à fait le contraire de Dieu sur le trône. Mais gloire à Dieu. Dieu l'a chassé du ciel et c'est Dieu qui est sur le trône. Amen. Qui est tout puissant. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Voilà, nous voyons le ciel. Et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le tout puissant. Qui était, qui est et qui vient. Jésus les regarda et le dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? Mentir? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses? S'imposer contre notre volonté. Hein? Il ne peut pas regarder le péché avec faveur. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas tenter quelqu'un de pécher, ni être tenté de pécher lui-même, selon la parole de Dieu. Alors, il est tout puissant, mais il agit toujours en accord avec sa nature. Heureusement. Heureusement. Alors, si Dieu est tout puissant, qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie, pour ma vie? Est-ce que vous êtes content que Dieu est tout puissant? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie? Notre dimension. Wow. Jean-Christophe, c'est bien ça. Mais c'est vrai. C'est excellent. Parce que, oh, est-ce que je suis le seul qui, des fois, je me lève le matin et je me dis, Seigneur, si tu ne m'aimes pas, je suis cuit. Ça vous arrive? Lise, si tu avais étudié, tu n'aurais pas dit ça. je plaisante. Non, mais peut-être moi aussi. Hein. Moi aussi. Quand tant de fois, les gens me critiquent. Ou bien, est-ce que ça vous est arrivé de faire de votre mieux, presque? Et vous n'avez aucune notion de faire mal. Et puis, il y avait une chose, c'était pas du tout votre attention. Et tout d'un coup, boum, quelqu'un saute sur vous, mais vous avez fait ça et vous êtes pas mal. Et effectivement, c'était pas si bien que ça que vous avez fait, ce que vous avez fait, mais avec un bon cœur. Ça vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Comme Jean-Christophe a dit, on a besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous, n'est-ce pas? Moi, je pitié les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous vivons dans une société occidentale qui se base sur l'individuel. Et on dit, l'individuel, il est capable de tout faire. Et je dis mon œil. Oui, on peut beaucoup faire. Et moi, je préfère être avec une personne qui est positive que d'être avec une personne qui est négative. Mais une personne qui dit, les hommes sont capables de tout, sont pas honnêtes. Ils sont aveuglés. Parce que je sais de quoi les hommes sont capables. On a dit, la meilleure façon de prédire ce qu'il sera, ce qu'une personne fera, c'est de voir ce qu'il a fait. Et si je vois 4000 années ou plus de, qu'on a un record de, des gens, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des choses bien. Et mes amis, ils se sont bien plantés bien de fois, n'est-ce pas? Dans le péché, dans l'égoïsme, dans la guerre et toutes sortes de choses. Tu sais de quoi l'homme est capable? Je suis content que j'ai un Dieu qui est tout puissant. Quand je suis faible, quand je suis pas capable, lui, il est là, il est de mon côté. Dieu, il est aussi omniprésent. Omniprésent. Dieu est présent partout dans sa création, mais il n'est pas limité par sa création. C'est-à-dire, l'univers n'est pas aussi grand que Dieu. Dieu, il est aussi dans les lieux célestes, c'est-à-dire les lieux invisibles. Dieu, là où vous allez, il est partout. David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est le psaume 139 et 7 et 10. Et en Actes chapitre 7, 48, mais le trésor n'habite pas dans ce qui est fait de main de l'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Dieu, il est partout. Il n'est pas sujet aux limitations d'espace, mais omniprésent veut tout spécialement parler de sa présence dans l'univers. Et il y avait un cosmonaute qui, comme les Russes étaient toujours les bons communistes et les bons athées, alors il a tourné autour de la Terre dans la navette spatiale et il a dit, bon, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas entendu Dieu. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'était à Noël, il y avait des astronautes, des cosmonautes qui sont allés autour de la Lune, là. Et ils étaient, je crois, de retour vers la Terre, ou bien ils tournaient autour de la Lune. Et tout d'un coup, vous voyez, quoi, une image de la Terre, mais de la Lune. C'était époustouflant. Et le cosmonaute, là, commençait de lire, au début, au commencement, Dieu a créé les cieux et la Terre. Il écrivait, il lisait le récit, là, de la création de la Terre en Genèse chapitre 1. Et je vous avoue, j'avais la chair de poule. Parce que Dieu, il était à la Lune aussi. Et mes amis, si jamais nous arrivons à Mars, il sera là. Et si jamais on saute dans la navette spatiale et on voyage à la vitesse de lumière pour 14 milliards d'années de lumière et on arrive d'être vivant quand on sort de cet univers, Dieu sera toujours là. Il est omniprésent. Alors, comment? Je sais pas. Dieu n'est pas limité comme moi. Comment l'atmosphère? Moi, quand je suis ici, je respire. Le bon air de Reims, n'est-ce pas? Le bon air renoise. Quand j'étais en Afrique, j'ai bien respiré. Quand j'étais au Luxembourg, je respire. Quand je suis aux États-Unis, je respire. Et comment? Parce que l'air est partout, n'est-ce pas? Alors, Dieu n'est pas l'air parce qu'il a une personnalité. Mais comme l'air est partout sur la terre, Dieu, il est partout. Mais Dieu, il est encore plus grand que ça. Sa personnalité, sa personne, il est partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les chrétiens? Est-ce que ça vous réconforte que Dieu, il est omniprésent? Pourquoi? Pourquoi, Muriel? Pardon, hein? Oui, tout à fait. Il est à Bruxelles, ici aussi. Amen. Oui, est-ce que ça vous gêne des fois que Dieu est partout? Quand on fait une bêtise et quand on est là, le dimanche, on venant à l'assemblée et je roulais assez vite pour arriver à l'heure et je me suis mis devant une personne qui il roulait comme c'était une promenade de dimanche. Hein. Alors il y a deux choses qui m'embêtent. D'abord, c'est quand je suis pressé qu'il y a quelqu'un devant moi qui roule comme pas même la limite de vitesse. il est cool, il regarde de côté à gauche. Ça, c'est une chose qui m'embête. Et l'autre chose, c'est quand j'ai plein de temps, et je suis pas pressé, alors je roule doucement, et il y a un idiot derrière moi, mais qu'est-ce que vous faites? Ces deux choses m'embêtent beaucoup. Mais, je suis que, des fois, le dimanche, je dis, oh, c'est bien cool. Pardonne-moi. J'essaie de ne pas être stressé. J'essaie, Seigneur. Mais des fois, quand tu veux crier, je dois avouer que l'idée que cette personne dans l'autre voiture, que je risque de la rencontrer à l'église, ça m'empêche de crier avec elle. N'est-ce pas? Et puis, tu peux, le Seigneur t'aime et tu vois la personne là. Alors, ça m'aide beaucoup, hein. Mais dans mon cœur, je l'ai fait quand même. S'il pouvait entendre mon cœur, oh là là. Mais quelque part, même quand je suis tenté de pécher, et je dois dire, même quand j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose qui déplaisait au Seigneur, ou bien quand je lutte contre le péché, quand je lutte contre la tentation, je suis content que Dieu le sait. Je suis content que Dieu le sait. Le seul endroit où je ne veux pas être, c'est avec Adam et Ève en train d'essayer de se cacher de Dieu, derrière un arbre, quelque part. Moi, je ne veux pas me cacher. Si j'ai péché, je veux être dans sa présence. Amen. C'est comme mon petit-fils. Vous aimez bien les histoires de moi, mes petits-fils, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont tellement marrons, mes petits-fils. Mais Mike, il a 14 mois et sa mère lui me dit l'autre jour, oh, tu sais, ce petit-là. Quand je veux lui donner une punition quand il m'a fait mal, quand il a fait de mal, je vais le punir. Il commence à faire des petits visages tellement mignons et tellement gentils. Et il vient, il me prend mon visage, il me donne des bisous. Et, oh, c'est difficile de lui donner des fessées, hein. Il sait. Alors, est-ce qu'il court de la présence de sa mère? Non, s'il court, il va mourir. Bon, peut-être pas mourir, mais il va en souffrir quand même. Mais s'il s'approche, peut-être, bon, il va être, j'espère qu'il va quand même être puni, je suis pas sûr, mais j'espère. Mais, disons, la punition sera beaucoup moins lourde si au lieu de courir et se cacher, il s'approche. N'est-ce pas? C'est la même chose pour nous. Dieu est omniprésent. Nous pouvons courir, mais mes amis, il est toujours là. Il est toujours là. Il vaut mieux si on a péché, même si on est tenté de pécher. Et si tu veux, ce prochaine caractéristique de Dieu, ça va avec l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Wow. La connaissance de Dieu est infinie. Il se connaît lui-même et toute autre chose dès l'éternité. Il connaît parfaitement le passé, le présent et le futur. Dieu sait déjà ce qui va arriver. C'est pour cela qu'il ne voit pas le temps comme nous. Pour lui, le futur est aussi réel que le présent et le passé. Il sait ce qui va se passer, ça c'est sa prescience, mais cela ne veut pas dire qu'il le détermine. Il laisse à l'homme le libre arbitre pour choisir, bien qu'il sache comment l'homme va choisir. C'est comme ça. Si tu crois que Pharaon a été choisi, pour être une vaisselle pour que Dieu montre sa colère. Comment Dieu peut être comme ça et dit, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul périsse, mais que tout vienne à la repentance. C'est à cause de la prescience de Dieu. Parce que Dieu a donné, qui a jamais eu dans l'Ancien Testament l'occasion qu'on parlera de recevoir le Seigneur, de voir la gloire du Seigneur. Nebuchadnezzar était un grand roi. Et à la révélation de la gloire du Seigneur, il s'est repenti, en quelque sorte. Mais Pharaon a vu beaucoup, beaucoup plus que Nebuchadnezzar. Et il s'est endurci. Alors, est-ce que Dieu l'a créé comme ça? Ou bien, est-ce que Dieu, dans sa prescience, il savait déjà ce que Pharaon allait faire? Il dit, bon, ok, je vais vraiment lui donner une occasion, comme tout le monde. Mais lui, je vois déjà, il va me rejeter. Alors, je vais utiliser Pharaon. Et je vais montrer ma gloire dans sa vie. Je vais montrer à tout le monde ce qui se passe quand on se rébelle et quand on s'endurcit contre Dieu comme ça. Est-ce que Dieu aurait sauvé Pharaon s'il s'était repenti? Oui. Moi, je crois que oui. Mais il savait que Pharaon n'allait pas se repentir à cause de sa prescience. C'est-à-dire, il savait en avant, et il savait tout. Alors, ce n'est pas que Dieu nous oblige. Les calvinistes extrêmes, ils disent, oui, Dieu, il sait et il détermine qui va recevoir, qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Moi, je ne crois pas que ça, c'est biblique. Il a dit, quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Il a dit, il n'est pas, il veut pas que personne périsse, mais que tout vienne à la repentance. C'est son désir. Alors, avec les désirs comme ça dans son cœur, comment va-t-il créer quelqu'un pour vraiment seulement pour la raison qui va le détruire? Moi, je ne crois pas. Excusez-moi, mais je ne crois pas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se connaissent parfaitement. Jésus a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne le connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il connaît le futur. Il connaît chacun de nous intimement. Le psaume chapitre 139, 1 à 4. Si vous voulez bien être béni dans votre culte personnel cette semaine, lisez et réfléchissez sur le psaume 134, excuse-moi, le psaume 139, pas 34, mais le psaume 139. S'il y a un poème dans le monde qui est plus précieux que celui-là, oh, je ne le connais pas. Il a dit, Ésaïe 46, verset 9 et 10, « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et en hébreu, il dit, en parlant de la parole de Dieu, « Dieu, nulle créature n'est cachée devant lui. » Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu sait. Il nous connaît intimement. Ça me réconforte, même quand mes sentiments ne sont pas nobles. Si Dieu le sait, et je l'appelle plus tôt ou plus tard, la délivrance vient. Si je suis dans la rébellion, cela me fait peur parce qu'il y a des attitudes et des pensées que j'aimerais cacher de lui. Tout est cool, Seigneur, et dans mon cœur. Mais il sait. Il sait. Il me connaît. Ma grand-mère, quand elle était mariée 50 ans avec grand-père, un jour, peut-être je vous ai déjà dit cette histoire, mais tu sais, quand on devient vieux, c'est le privilège de la vieillesse. On peut se répéter, n'est-ce pas, Ron? Je plaisante, frère. Non. Mais grand-mère disait, grand-père était là, elle dit, ah, tu sais, David, c'était bien que nous étions jeunes. C'était bien, mais c'est beaucoup mieux maintenant. Je le connais tellement bien en parlant de grand-père. Je le connais tellement bien, je sais ce qu'il pense. Et grand-père, bon, tu sais pas ce que je pense, moi. Et elle dit, oui, oui, je sais ce que tu penses. Et presque, plus on est ensemble dans l'amour, plus on se connaît, n'est-ce pas? Mais Dieu nous connaît. Quand je lis le psaume 139, et je vois que Dieu m'a tissé dans le sein de ma mère. Je dis, oh, Seigneur, tu étais là. Ça, c'est pour cela que je ne crois pas à l'avortement, que je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a tissé, si tu veux. C'est une manière poétique de parler. Mais c'était Dieu qui était vraiment là en train de me créer, me former. Tout ce que je suis. Si tu veux, utiliser une image plus moderne. C'est lui qui était là dans le sein de mon mère. Ma mère, en train de programmer ma code génétique. Les yeux bruns, gris plus tard, blancs plus tard. Ils vont rester. J'espère. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Il nous connaît intimement. Alors, j'ai presque terminé. Dieu, il est éternel. C'est une chose que la première fois que j'ai vraiment entendu ça, j'avais mal à le saisir. Dieu, il n'avait ni commencement, ni fin. Alors moi, je comprends, il n'a pas de fin. Parce que là, de ce côté-là, j'ai vraiment l'intention de me joindre à lui dans l'éternité. Mais n'avoir pas de commencement. La plupart d'entre nous, nous avions un commencement quelque part, n'est-ce pas? Mais Dieu, jamais. d'éternité en éternité. L'idée que j'avais, moi, c'était comment est-il arrivé jusque-là s'il n'a pas commencé? Parce que nous commençons. Et encore un mystère de Dieu. On parlait de la Trinité. Comment Dieu, il a toujours été? Il est, ça je comprends. Il sera, je comprends. Il a toujours été. Parce que Dieu existe en dehors du temps. Pour lui, le temps n'a pas la même valeur que nous. Moi, j'étais né le 2 janvier 1950. Si quelqu'un d'entre vous voulait me donner un cadeau ce jour-là, ça va. Le 2 janvier 1950. Je ne sais pas quel sera le jour de ma mort. Je suis pas trop pressé d'y aller, mais quand même, normalement, si le Seigneur attend, un jour, oui, ce corps va mourir. On est limité de temps, d'espace. Mais il n'y a personne qui peut dire, voilà le jour que Dieu est né, et voilà le jour que Dieu est mort. Parce qu'il a toujours été. Il existe en dehors du temps. Et c'est pour cela que, des fois, Dieu, il n'est pas pressé. Thélès, on dit que Dieu, il n'est jamais en retard. Mais il passe beaucoup d'occasions d'être en avant, là. Il semble que, qu'il arrive juste quand il faut, parce qu'il veut que nous croyons en lui. Mais mes amis, Dieu, il est éternel. Il est toujours là. Il a dit en le psaume chapitre 90, verset 2, avant que les montagnes fussent nées, et tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Est-ce que ça vous réconforte? Que Dieu est éternel? De temps en temps, les archéologues, ils désenterrent des dieux, entre guillemets, avec le D majuscule. On a oublié ces dieux, soi-disant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas Dieu. Tous ces dieux-là, combien de dieux? Baal, c'était vraiment le dieu de jour, il y a 2000 ans, 3000 ans. Oui, Baal maintenant. Tous ces dieux-là. Et d'éternité en éternité. Dieu, le vrai Dieu, les dieux. Et puis on finit son matin. Ça c'est pour une autre nuit aussi. Dieu, il est parfait. Ses caractéristiques morales, il est saint, il est juste, il est bon. Il est la vérité. Il est tout cela en perfection. Ce n'est pas seulement que Dieu agit, comme je dis avant, avec justice, il est juste. Ce n'est pas seulement qu'il aime, il est amour. Il ne grandit pas en sainteté, bonté, etc. Il est déjà parfaitement, parfaitement. Ma femme, des fois, elle croit que si elle avait attendu, peut-être elle aurait trouvé un meilleur mari. Mais comment améliorer la perfection, Christian? Humble en plus. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Mais Dieu, il ne s'améliore pas. Dieu n'apprend pas. Dieu ne grandit pas. Dieu ne devient pas plus juste. Dieu ne va pas vous aimer plus demain qu'aujourd'hui. Il ne peut pas. Parce qu'il vous aime déjà avec tout ce qu'il est. Et il est amour. Dieu ne va pas vous agir d'une manière plus correctement et justement demain qu'aujourd'hui. Parce qu'il le fait déjà. Il est juste. C'est sa perfection, son caractère. C'est pas vous. Mais quand je crois que, quand je pense au fait que Dieu ne change pas, ça m'encourage. Quand je pense au fait que Dieu est tout puissant, ça m'encourage. Quand je pense que Dieu, il est partout, ça m'encourage. Quand je pense que Dieu, il sait tout, ça m'encourage. Quand je pense que Dieu n'a jamais eu commencement ni fin, et il est là aujourd'hui, ça m'encourage. Quand je pense à ses perfections, bien que je ne sois pas parfait comme ça, je suis en train de devenir comme lui, par la puissance de son esprit. Et ça m'encourage. Nous voulons connaître Jésus. Amen. Nous voulons connaître